Bonjour Sybille et bonjour à tous. Peut-être que vous avez remarqué, mais l'être humain dans sa réflexion intellectuelle et ses obsessions du moment fonctionne par cycle. Chaque cycle va durer plusieurs années, mais pendant ces années, on ne va plus parler que de ça. En ce moment, notre nouvel opium du peuple, ce nouveau cycle qui anime nos débats, c'est le droit international. Et là encore, depuis 2 ans, c'est un sujet pour lequel on se sent tous concernés et légitime à donner un avis. Avant le 7 octobre, si je vous avais demandé de me décrire les spécificités du droit de la mer, vous m'auriez dit avec grande humilité que vous n'étiez pas un juriste. Mais depuis le 7 octobre, on est tous tombés dans un délire collectif où chacun prend son Instagram pour calculer, selon lui, les limites des eaux territoriales au kilomètre près pour déterminer la légitimité d'une intervention militaire. Faut dire que la géopolitique ne nous aide pas. Avec tout ce qui se passe en ce moment, à chaque fois, on nous parle de droit international. Sauf qu'à force qu'on nous en parle, on finit par se mélanger les pinceaux et on ne sait plus vraiment de quel aspect de ce droit, très vaste et compliqué, on doit débattre. Alors dans cette chronique, je vous propose un petit bilan pour que vous puissiez vous y retrouver et choisir le droit international qui vous intéresse pour approfondir vos recherches. En premier thème, il y a la question du recours à la force. C'est le socle du droit international contemporain. En principe, un État ne peut pas employer la force contre un autre. C'est ce que dit l'article 2.4 de la Charte des Nations Unies. Mais à la lumière des récents événements, on se pose tous une question majeure. Cette interdiction du recours à la force a-t-elle encore une réelle valeur, puisqu'elle est régulièrement violée, et ce sans aucune conséquence réelle? La preuve, par la Russie qui continue d'attaquer l'Ukraine sans que personne ne bouge. On peut aussi citer le conflit au Congo avec le Rwanda, qui est accusé de soutenir les rebelles du M23 qui ravagent le pays, posant ainsi la question de savoir si soutenir un groupe armé qui agit dans un autre pays est aussi une forme de recours à la force contre un État. Donc aujourd'hui, on a une question essentielle. Est-ce que l'interdiction de la guerre a encore une portée réelle lorsqu'elle est de plus en plus violée? Deuxième thème, il y a la question de la légitime défense. L'article 51 de la Charte des Nations Unies rappelle qu'en cas d'agression armée, les États ont le droit de se défendre. Mais jusqu'où va cette légitime défense? C'est la question qu'on se pose tous depuis le 7 octobre et la riposte d'Israël sur la bande de Gaza. Et avec les attaques d'Israël et les États-Unis contre l'Iran, au motif que l'Iran était prêt à se doter de l'arme nucléaire, est aussi venu rajouter une nouvelle limite. Où s'arrête la légitime défense et où commence la guerre préventive? Troisième thème, si vous vous intéressez aux civils, alors c'est la branche du droit international humanitaire qui doit occuper votre attention avec les conventions et protocoles de Genève. Avec la guerre Israël-Hamas, le droit international humanitaire a été questionné. Est-ce que les règles de protection des civils sont encore applicables dans les conflits modernes, dans des zones urbaines très denses avec des groupes terroristes qui ont recours à de toutes nouvelles méthodes pour se disséminer au milieu des civils? Autre exemple, la situation au Soudan. Le pays est en proie à la plus grave famine, l'aide humanitaire n'est pas acheminée et les civils ne sont pas secourus. Il n'y a pas aujourd'hui une règle du droit international humanitaire qui est respectée au Soudan. Quatrième thème, si vous vous intéressez à la justice, alors c'est la branche de la justice internationale qui vous concerne. On a plusieurs organismes qui sont chargés de protéger le droit international ou pour qualifier des faits, comme la CIJ ou la CPI, mais elles ont toutes les deux montré leurs limites. Les juges internationaux peuvent qualifier, ordonner, constater ou délivrer des mandats, mais leur action dépend fortement de la coopération des États. La CPI, par exemple, a émis des mandats d'arrêt contre Netanyahou, Poutine ou des dirigeants talibans, mais ce sont aux États de l'arrêter sur leur territoire. La CIJ, elle, a fait des enquêtes, mais elle dépend du bon vouloir des États qui doivent fournir des preuves, coopérer avec elle, fournir leurs observations, etc. Et une volonté politique peut parfois bloquer un procès pendant des années. Ça fait donc surgir une autre question essentielle. À quoi sert de dire le droit si son exécution dépend de la volonté politique des États? Cinquième thème, si vous vous intéressez à la mer, alors le droit international de la mer doit être votre sujet. La mer, c'est pas seulement un espace stratégique, c'est aussi un espace juridique qui obéit à de vraies règles, notamment par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. On a plein d'exemples sur le sujet. Taïwan aborde la question des détroits et la liberté de navigation. La mer Rouge et les détroits d'Ormuz montrent bien que le droit de la mer est devenu un sujet géopolitique. Dès lors, se pose aujourd'hui une nouvelle question. Est-ce que la liberté de navigation a encore du sens lorsque les tensions militaires gagnent les détroits et routes maritimes essentielles? Si vous vous intéressez, sixième thème, au droit humain, alors le droit international des droits de l'homme est fait pour vous. C'est le droit qui va protéger nos libertés fondamentales. Mais aujourd'hui, entre l'Iran qui pend les dissidents à tout va, les talibans qui persécutent les femmes, les yézidis qui continuent d'être exploités, les Qatars ou les Émirats qui emploient des esclaves à tout va, ou le viol qui est de plus en plus utilisé comme arme de guerre, notamment au Congo, au Mali ou au Nigeria, les droits de l'homme ont-ils encore un sens lorsqu'ils sont violés partout et dans la plus profonde indifférence dès lors que ça fait pas la une des journaux? Enfin, dernier thème, si c'est le territoire qui vous intéresse, alors vous devez regarder du côté du droit international relatif à l'occupation et l'autodétermination. L'Ukraine, les territoires palestiniens, l'autodétermination juive, tous posent une même question. Qui contrôle légitimement un territoire et jusqu'où le droit international peut-il empêcher qu'il soit conquis, occupé ou transformé par la force? En définitive, nous le voyons, le droit international est vaste et infiniment complexe. Mais une dernière question se pose. Est-ce que le problème vient du droit ou de nos intérêts politiques, militants et idéologiques? Que vaut le droit lorsque l'attention internationale est focalisée sur Israël parce que des mouvements idéologiques radicaux ont réussi à infiltrer nos systèmes de pensée et nos universités pour distiller leur propre haine? Que vaut le droit lorsque la seule institution qui peut réellement faire bouger les choses reste le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais que celui-ci est toujours paralysé par un droit de veto ou un jour de la Chine, un autre de la Russie ou des États-Unis en fonction de leur agenda politique? Le droit international existe encore et depuis 2 ans, il est instrumentalisé pour le vider de son sens originel. Autrefois, il servait à protéger les individus. Aujourd'hui, il ne sert plus qu'à attaquer, justifier la haine et faire passer ses propres revendications identitaires idéologiques. Et ce n'est pas en regardant une vidéo de 5 minutes sur TikTok qu'on le défend, mais en se plongeant dedans avec conscience et probité pour lui redonner toute sa valeur.